Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International Évreux pour la première émission du mois de mars consacrée, bien sûr, à la défense et à la promotion des droits humains, puisque c'est notre raison d'être. Alors, ce soir, effectivement, l'émission va être très largement consacrée aux droits des femmes, puisque vous n'êtes pas sans savoir que vendredi dernier, c'était la journée mondiale pour les droits des femmes, la journée internationale, pour être tout à fait précis, pour les droits des femmes. Et donc, on va largement en parler ce soir, même si on a eu le plaisir de faire une émission dans le cadre du cycle Fréquence Droits Humains, ce jour-là, en direct, depuis l'espace jeune de la Madeleine. Donc, si vous allez sur le site de la radio, vous aurez également la possibilité de réécouter cette émission. Le site de la radio, c'est principactif.net. Et ce soir, pour animer l'émission, eh bien, il y a une très grande majorité de femmes, mais ça ne vous étonnera pas. Donc, il y a Sabine.
Bonsoir.
Il y a Françoise.
Bonsoir.
Il y a Mina.
Bonsoir.
Et puis, il y a aussi une femme qui fait la technique. Voilà.
Bonsoir, Didier.
Voilà. C'est Vincent. Merci. Donc, bon, je vais faire une petite introduction et bon, qui ne sera pas dans le sujet, parce que, bon, évidemment, Amnesty ne peut pas ne traiter que les droits des femmes, même si c'est essentiel. Mais une petite introduction qui n'est pas dans le sujet, mais qui est consacrée à une actualité locale. Alors, ce texte nous a été envoyé, ce n'est pas à proprement parler un texte d'Amnesty, mais ça nous a été envoyé par un adhérent du groupe, un militant du groupe, qui s'appelle Christian, et qui est engagé depuis pas mal d'années, puisqu'il y va régulièrement, pour la défense des droits des jeunes réfugiés à Ouistreham, qui cherchent à passer en Grande-Bretagne, pour la plupart, et qui vivent dans des conditions absolument déplorables dans la région de Ouistreham ou dans la région de Ouistreham, et qui sont aidés par des associations d'entraide, enfin, etc. Et la situation locale, y compris à cause de la réaction des forces de police et de gendarmerie, est actuellement en train de se dégrader. Donc il nous a envoyé ce texte-là que je vais vous lire, et je lui ai promis effectivement que j'en parlerai ce soir. Donc voilà ce qu'il dit. Depuis quelques semaines, les pressions policières envers les jeunes réfugiés de Ouistreham s'est considérablement durcie. Violences physiques et verbales, gazage, destruction de portables, interpellations, contrôle d'identité, garde à vue et incarcération dans des centres de rétention administrative. À peine la dernière brigade de gendarmes mobiles avait-elle quitté Ouistreham en provoquant des jeunes réfugiés sur le port, qu'une nouvelle brigade est arrivée avec les mêmes intentions et les mêmes pratiques. La situation s'est considérablement dégradée. Nous sentons monter le malaise et percevons les tensions sur le terrain. Les garçons vivent très mal ces nouvelles conditions et ont du mal à encaisser ces injustices sans réagir. Leur morale est très bas. Imaginez que l'on casse votre portable, seul lien avec votre famille, que l'on vous arrête arbitrairement pour passer dans la crainte la nuit au poste, que l'on vous déloge en pleine nuit de l'endroit où vous dormez. Certains gendarmes mobiles y vont de leurs commentaires à voix haute devant les passants. C'est le moment de sévir. Dès qu'on en voit quelques-uns installés, on les dégage. On va leur montrer ce que c'est que de résister. Les bénévoles sont à nouveau surveillés de près. Des voitures de gendarmes postées à proximité durant les distributions de nourriture et des visites à domicile pour ceux qui les hébergent. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu cela. Pourquoi ce changement de gestion sur la ville? Quelles en sont les raisons? Quels sont les objectifs poursuivis? Régulièrement, les autorités compétentes, notamment le cabinet du préfet, sont alertées sur des pratiques des gendarmes mobiles. Ces agissements ne sont ni dénoncés ni assumés par ces autorités. D'où viennent donc les ordres? Quelle est la stratégie? Si le but ultime de ces multiples provocations est de faire monter artificiellement les tensions à Ouistreham, d'accuser la population de réfugiés d'être dangereuse et violente et par là même d'inquiéter les habitants, l'objectif est en passe d'être atteint. À force de harcèlement continu et injuste, nous allons à grands pas vers une impasse. Alors même que depuis des mois, ces garçons vivent parmi nous, dans nos rues, calmement, sans commettre d'actes de délinquance malgré leurs conditions de vie inhumaines. Demandons-nous aussi si une autre stratégie ne serait pas de faire disparaître au compte-gouttes ces jeunes en les envoyant dans des centres de rétention où aucun aidant ne peut rentrer, où les conditions de vie sont terribles et où les suicides se multiplient. Mis à part les quelques-uns qui reviennent après un jugement rapide et quelques jours de prison, que deviennent les nombreux jeunes qui ne sont jamais réapparus ? Tout cela ne nous annonce rien de bon localement si on remet ces événements dans un contexte plus global. On a constaté ces derniers mois et dans d'autres lieux beaucoup de violences injustes et démesurées envers des gens manifestement pacifiques. Il devient maintenant clair que les autorités de la France, en contradiction avec leur discours officiel, ont sciemment choisi aujourd'hui la répression et la brutalité comme seul mode de gestion des plus fragiles. Voilà ce qu'il nous a écrit. Donc on précise que ce texte est effectivement, nous a été envoyé par Christian, militant d'Amnesty Évreux, mais ça concerne la situation des jeunes migrants et réfugiés à Ouistreham. C'est pas loin d'ici, hein, c'est à une centaine de kilomètres sur la côte normande. Et que donc, effectivement, on ne peut que s'inquiéter avec lui et être vigilant avec lui contre cette situation qui se dégrade et cette montée de la répression et de la violence. Voilà. Et donc, puisqu'on parlait de la répression et de la violence, on a un deuxième petit point à vous dire. Aujourd'hui, va être votée très, très probablement par le Sénat la confirmation de ce qu'on a appelé récemment la loi anti-casseur, donc pour protéger officiellement le droit de manifester, mais qui est en fait une loi qui va permettre de réduire le droit de manifester. Et pour ça, on a enregistré une leçon d'une petite vidéo, mais ça se comprend très bien sans les images, leçon d'une petite vidéo qui a été mise en ligne sur le site d'Amnesty. Donc là, c'est un discours tout à fait officiel de notre organisation. On va vous le faire écouter maintenant.
Le gouvernement casse le droit de manifester. Nous sommes toutes et tous concernés. Voici pourquoi. Afin d'être le plus clair possible, nous allons prendre un exemple. Imaginons un manifestant. Celui-ci arrive à la manifestation. À proximité, il y a des violences. Lui n'y participe absolument pas. Bien au contraire, il cherche à s'en éloigner. Des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement sont alors lancées par les forces de l'ordre et notre manifestant se retrouve obligé de se protéger le visage. Il est alors arrêté par la police. Oui, simplement pour s'être protégé le visage, ce qui est banal, ce qui est humain, notre manifestant peut aujourd'hui être arrêté et recevoir une amende. Encore une fois, nous parlons d'un manifestant pacifique qui cherchait juste à se mettre à l'abri des gaz lacrymogènes. Cette personne, ça aurait pu être vous, un ami ou quelqu'un de votre famille. Difficile à croire, hein ? Et pourtant, les derniers chiffres sont parlants. Sur les 8400 personnes interpellées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, au moins plusieurs centaines de manifestants ont été interpellés et placés en garde à vue avant même d'avoir pu rejoindre la manifestation et simplement pour avoir eu sur eux du matériel de protection. Bon, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. La situation pourrait empirer avec une nouvelle loi, la loi dite anti-casseur. Reprenons le cas de notre manifestant pacifique dans une situation similaire. Celui-ci cherche à fuir les violences, se couvre le visage pour se protéger et se fait interpeller par la police. Sauf qu'avec cette proposition de loi, et sans entrer dans les détails juridiques, notre manifestant risque alors bien plus gros qu'une arrestation arbitraire. 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Une peine d'interdiction de manifestation. Et enfin, une inscription au fichier national des personnes recherchées en tant que personne interdite de manifester. En plus, avec cette loi, les préfets pourront désormais interdire à des personnes de manifester sur des motifs très vagues, très flous, et tout ça très loin du regard de la justice. Comme je vous le disais, tout le monde est concerné. Salariés, chômeurs, étudiants, retraités, infirmiers, journalistes, avocats, tout simplement nous, citoyennes et citoyens, lorsque nous souhaitons exercer notre droit de manifester pacifiquement. C'est un droit fondamental qui est aujourd'hui gravement menacé. Le gouvernement casse le droit de manifester. Nous sommes toutes et tous concernés. Interpellez avec nous les autorités françaises. Rendez-vous sur amnesty.fr.
Donc voilà cette petite chronique qui n'engage rien de bon, malheureusement, et on va continuer à lutter, même si, hein, comme je vous disais, énormément de chances que cette loi soit votée aujourd'hui par le Sénat. Bon, il reste une procédure qui sera faite apparemment, d'après ce que je peux savoir, auprès du Conseil constitutionnel pour vérifier la constitutionnalité ou non de ce projet de loi. Voilà. Mais je vous disais en introduction que c'est une journée, une émission consacrée aux droits des femmes, puisque c'est l'époque. Et il y a Sabine, Françoise et Nina.
C'est toute l'année.
C'est toute l'année. Mais enfin, il y a un jour dans l'année où c'est plus mis en avant. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est toute l'année, quoi. Parce qu'il faut s'interroger sur le fait qu'on ait besoin de faire une journée pour le droit international des femmes. C'est quand même, voilà, les droits devraient être égaux toute l'année pour tout le monde, c'est tellement évident. Mais il y a Françoise, Sabine et Mina qui ont beaucoup de choses à vous dire. Donc je leur donne la parole à Françoise.
Oui, alors je vais vous parler des femmes migrantes qui doivent intégrer le viol comme un élément du voyage. Plus de 80% des femmes originaires d'Amérique latine qui prennent la route de l'exil sont violées durant leur trajet, rappelle le sociologue Smaïn Lacher dans une tribune au Monde. Depuis quelques années, à l'aide de mécanismes informationnels comme MeToo, des millions de jeunes femmes à travers le monde dénoncent leurs agresseurs ou leurs violeurs, mais aussi appellent les femmes à témoigner des violences qu'elles ont subies. Ce phénomène relativement inédit a au moins permis à un tort d'être enfin reconnu pour ce qu'il est, une violence injustifiable qui réclame impérativement une réparation et une lutte de la part des pouvoirs publics contre ce terrible fléau. Mais ces femmes ne sont pas toutes les femmes. Elles ne sont en rien ces centaines de milliers de femmes de conditions modestes qui prennent la route de l'exil pour échapper coûte que coûte à la misère et à la persécution. MeToo n'est pas une arme qu'elles peuvent mobiliser pour accéder à une parole crédible et exiger justice. Ces masses de femmes et d'hommes viennent de pays instables où la violence politique est quasi permanente et où les gangs font régner leurs lois sans pitié, rivalisant dans l'horreur pour soumettre et extorquer les populations.
Merci Françoise.
On va partir donc en Arabie Saoudite, où Loujain Al-Atloul, Iman El-Nafshan et Aziza Al-Youssef sont détenus par les autorités saoudiennes depuis mi-mai. Toutes les trois sont des figures emblématiques de la lutte pour le droit des femmes. Elles se battent pour le droit de conduire, mais aussi pour que soit mis fin aux discriminations qu'elles subissent, notamment pour la suppression de la tutelle masculine. Pour mémoire, dès 1990, des femmes se sont mobilisées en Arabie Saoudite contre l'interdiction de conduire. Interpellées par la police, plusieurs d'entre elles avaient été exclues temporairement de leur emploi. En 2011, des militantes lançaient une campagne sur Internet pour appeler les femmes détenant un permis de conduire international à prendre le volant. De nouveau, le mouvement fut suivi par de nombreuses femmes. Certaines furent arrêtées et forcées de s'engager par écrit à ne plus chercher à conduire. Le 26 octobre 2013, des militantes des droits des femmes lançaient de nouveau une action et ainsi de suite. Le 24 juin 2018, la levée de l'interdiction a été saluée dans le monde entier. Pourtant, bon nombre de militantes des droits des femmes ont été arrêtées à la même époque et mises derrière les barreaux. C'est la levée de l'interdiction de conduire, hein, on est bien d'accord, qui n'est que fictive. Donc Loujain Al-Atloul a été détenue une première fois pendant 10 semaines parce qu'elle avait franchi la frontière saoudienne depuis les Émirats arabes unis au volant de sa voiture. Libérée le 12 février 2015, elle était à nouveau arrêtée le 4 juin 2017 à l'aéroport international du roi Fahd à Dammam alors qu'elle revenait d'un séjour à l'étranger. Interrogée sur ses activités militantes, elle a été libérée 4 jours plus tard et de nouveau arrêtée en mai 2018. Iman El-Nafshan est une blogueuse et défenseuse des droits des femmes qui s'est mobilisée pour le droit de prendre le volant. Aziza Youssef est elle aussi une figure du combat pour le droit de conduire et pour l'abolition du système de tutelle masculine. Elle est professeure d'université à la retraite. Enfin, elle est à la retraite. Elle œuvre sans relâche pour aider les femmes qui ont fui les violences conjugales et autres abus. Quant à cette tutelle masculine, c'est un système qui fait de l'homme le gardien légal de la femme. Cette tutelle qui place la vie quotidienne de la femme entre les mains de l'homme. Le père, un frère, le mari ou des fois le fils aîné s'exerce notamment dans le domaine de l'éducation. Les femmes doivent obtenir de leur tuteur la permission pour suivre des études supérieures. Cette tutelle interdit également aux femmes de renouveler leur passeport ou de quitter le pays sans la permission d'un homme de leur famille. Il est interdit aux femmes, quel que soit leur âge, de se marier sans le consentement de leur tuteur masculin. Alors, vous pouvez encore agir et demander la libération de ces trois femmes en allant sur amnesty.fr, liberté d'expression, pétition liberté pour trois défenseuses en Arabie Saoudite. La pétition est encore en ligne.
Merci Sabine. Et moi, on va revenir sur le passé avec Riti Pan, un cinéaste franco-cambodgien, rescapé du génocide Khmer Rouge, qui explore le passé pour lui redonner sens. Il sort un DVD où il y a deux films. Le premier, La France est notre patrie, le deuxième, Exil. Dans ces deux films, c'est l'occasion de découvrir les réflexions de l'auteur de S21, l'auteur de La machine de mort Khmer Rouge sur la colonisation et le totalitarisme. La France est notre patrie, le premier DVD, surprend. C'est un montage d'archives sans commentaires, sans voix off, une réflexion visuelle sur l'époque de la colonisation française en Indochine. Laissé à la libre interprétation du spectateur, de petites affichettes en noir et blanc ponctuent les scènes comme dans les films muets. Essentiel, la musique remplace les mots. Insolite, parfois grinçante sur une scène supposée joyeuse, elle semble en dissonance par rapport à l'image. Ce montage subtil révèle l'intime, la domination naturelle des uns, l'acceptation silencieuse des autres. Et un quotidien à hauteur d'homme, appréhendé dans sa complexité, bien loin du discours officiel. Dans le deuxième film, Exil, c'est une méditation onirique. Un jeune homme replié sur lui-même est enfermé dans une petite cabane de bambou. Tandis qu'il monologue, les images du Cambodge des années 1960 défilent. Sa cabane peu à peu se métamorphose, se remplit d'oiseaux, de nuages. Dans ce film, le cinéaste livre pour la première fois, à travers son personnage, sa propre existence de la survie face à la terreur. « Je m'en sortais parce que je regardais la lune, parce que je regardais le ciel. Pour survivre, il faut amener la lune à l'intérieur. Il lui faut se raccrocher au souvenir d'un visage aimé, à quelques notes de musique qui viennent de l'enfance, à un poème, aux objets du quotidien et les faire revivre en soi. L'œuvre et la vie de Riti Pan en sont le bouleversant témoignage. » C'est un article de Flore de Borne dans la chronique. Donc la sortie DVD Riti Pan, deux films, La France est notre patrie et Exil.
Eh bien moi je vais vous donner une bonne nouvelle qui concerne le Paraguay. Les autorités du pays ont demandé qu'une enquête impartiale et indépendante soit ouverte sur les attaques contre Amada Martinez, dirigeante de la communauté indigène Tekoa, dans le sud-est du pays, et ont accordé des mesures de protection et un chauffeur de taxi. À la suite d'une action urgente, elle a pu porter plainte auprès du bureau du médiateur et demander des mesures conservatoires au directeur chargé des droits humains du bureau à cette communauté. Le 8 août, elle avait été menacée par trois hommes armés dont l'uniforme portait le logo de la centrale hydroélectrique Itaipu, binationale Paraguay-Brésil, en présence de trois enfants et de sa sœur. De plus, l'Institut du Paraguay pour les affaires indigènes a reconnu officiellement Cristobal Martinez comme le représentant de la communauté, permettant ainsi à ses membres de faire valoir leurs droits à leurs terres ancestrales.
Eh bien, merci mesdames pour ces informations et cette bonne nouvelle pour finir. On va écouter un petit peu de musique et on se retrouve juste après.
Il y a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée. C'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur. J'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Il vivait avec des mots qu'on passait sous le manteau, qui brillaient comme des couteaux. Il jouait de la dérision comme d'une arme de précision. Il est sur le ciment et ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs qui font rire les enfants mais pas les dictateurs. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Ça dépend de ton attitude, ces 100 ans de solitude. Y'a du sang sur mon piano, y'a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs pour grincer les dents du grand libérateur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux, et on vient d'entendre Noir et Blanc, un morceau de Bernard Lavilliers. Voilà, et c'est Mina qui va prendre la suite, qui a pas mal de choses à vous dire.
Oui, un article écrit par Matteo De Bellis sur la maltraitance des réfugiés en Libye. Matteo De Bellis est un chercheur d'Amnesty International sur les migrations, qui revient sur les tortures et les violences contre les réfugiés et les migrants en Libye et la capacité honteuse de l'Europe à y mettre fin. Farah, un jeune homme somalien, sa femme et leur fille qui venaient de naître, avaient passé 12 heures en mer quand les gardes-côtes libyens ont intercepté leur canot. Le couple avait fui la Libye après plusieurs mois de torture dans un hangar dans lequel Farah était battu et sa femme était violée par des bandes criminelles libyennes essayant d'obtenir une rançon de leurs proches. Lorsqu'il a réalisé qu'il allait être renvoyé en Libye, le jeune homme de 24 ans a été pris de nausées. Je savais qu'il valait mieux mourir que retourner en Libye, mais ils nous ont menacés avec des armes. Farah, sa femme et son bébé ont passé les 7 mois suivants dans 2 centres de détention de Tripoli. Il n'y avait pas de nourriture ou de soins pour mon bébé. Elle est morte à 8 mois. Elle s'appelait Sagal. Leur histoire n'est que l'une des nombreuses histoires déchirantes de violence et de cruauté inimaginables que j'ai pu entendre le mois dernier à Medellin, une petite ville du sud de la Tunisie qui a accueilli un nombre limité mais constant de réfugiés et de migrants franchissant la frontière pour échapper à l'enfer de la Libye. Ce week-end, de nouveaux témoignages faisaient état de torture dans le centre de détention de Trik Al-Sika ont été recueillis. D'après ces informations, plus de 20 réfugiés migrants, dont les enfants, ont été conduits dans une cellule en sous-sol et torturés individuellement à tour de rôle, à titre de punition pour avoir protesté contre leur détention arbitraire dans des conditions déplorables et l'absence de solution. En réponse à cette contestation, plus d'une centaine d'autres personnes détenues ont été transférées vers d'autres centres de détention, notamment celui d'Enzara, dans lequel Sagal est morte. Ces témoignages de violence correspondent à ce que j'ai pu entendre en Tunisie. Un autre homme somalien, Abdi, a décrit l'extorsion et les violences qu'il a subies aux mains des gardiens des centres de détention. Comme Farah, Abdi a été arrêté en mer par les gardes-côtes libyens et renvoyé en Libye où il est passé d'un centre de détention à un autre. Parfois, les gardes boivent et fument, puis frappent des gens. Ils demandent aussi aux gens de leur donner de l'argent en échange de leur libération. Et ceux qui ne paient pas sont frappés. On voyait les gardes, tant des membres et des milices que de la police, venir et frapper des gens qui n'avaient pas payé. Ceci fait des conséquences catastrophiques dues aux politiques migratoires de l'Europe. La plupart des personnes actuellement détenues dans les centres de détention de Libye ont été interceptées en mer par les gardes-côtes libyens, qui ont bénéficié de tout un éventail de mesures de soutien de la part des gouvernements européens en échange de leur coopération en vue d'empêcher les réfugiés et les migrants d'atteindre les côtes européennes. L'argent des contribuables européens a été utilisé pour fournir des bateaux, créer une zone de recherche et sauvetage libyenne et construire des centres de coordination, entre autres mesures, en vue de renforcer les capacités de la Libye à empêcher ces personnes de fuir le pays et à les maintenir en détention illégale. Et ces aides ont été accordées sans la moindre condition associée, même si une telle coopération entraîne de graves violations des droits humains, comme des actes de torture. Si les États membres de l'Union européenne veulent cesser d'être complices des violences, des viols et de l'exploitation que subissent des femmes, des hommes et des enfants, ils doivent exiger la fermeture de tous les centres de détention pour migrants en Libye et la libération des quelques 5000 personnes qui y sont actuellement détenues. Les gouvernements européens, qui depuis des années prennent des mesures frénétiques, faisant adopter des politiques destinées à empêcher les arrivées en Europe, quel qu'en soit le coût humain, doivent revenir à la raison, surtout maintenant que le nombre de traversées est très faible. Au-delà des mesures en vue de remédier à la crise des droits humains en Libye qui touche tant de Libyens que des ressortissants d'autres pays, la réponse doit prévoir un mécanisme rapide et fiable de débarquement en Europe des personnes en quête d'asile et des migrants secourus en Méditerranée, ainsi qu'un système équitable de partage des responsabilités en matière d'assistance entre les États membres de l'Union européenne. Ces mesures permettraient de contribuer à éviter les événements désastreux qui se sont enchaînés l'année dernière. Des bateaux de sauvetage bloqués en mer pendant des semaines face au refus du pays de l'Union européenne d'ouvrir leurs ports et de les accueillir. Non seulement ces événements aggravent les souffrances des personnes qui viennent de fuir des traitements épouvantables, mais ils découragent également les navires marchands de porter secours à des personnes en détresse et de veiller à ce que ces personnes puissent débarquer dans un lieu sûr où elles ne pourront pas être envoyées en Libye. Emmanuel, un réfugié de 28 ans, qui a fui le conflit au Cameroun, a décrit sa dérive en mer à bord d'un canot non loin d'une autre embarcation qui prenait l'eau et sa stupéfaction... et sa stupéfaction lorsqu'un bateau a refusé de leur porter secours. Depuis le gros bateau, ils ont passé des appels, mais nous ont dit « Désolé, nous ne pouvons pas vous accueillir, ce n'est pas de ma faute. Nous avons hors de laisser les Libyens venir vous chercher. » Pendant ce temps, je voyais les gens mourir sur l'autre bateau. Des bouts de bateau et des corps flottés. Quand un petit bateau libyen est venu nous chercher, toutes les personnes à bord de l'autre canot étaient mortes. Alors que des informations selon lesquelles des réfugiés de pays comme l'Érythrée retournent dans leur pays en dépit des risques bien connus pesant sur leur vie émergent, l'Europe ne peut pas se permettre d'ignorer les conséquences catastrophiques de ces politiques irresponsables destinées à freiner l'immigration en Méditerranée. Les départs depuis la Libye sont en déclin. C'est donc le moment d'exiger des changements, notamment la fermeture des centres de détention pour migrants en Libye, la mise en place d'un système de débarquement et de relocalisation équitable en Europe et de voies sûres et légales qui n'obligent pas les personnes qui cherchent la sécurité à passer par des traversées en mer. Cela permettrait à de nombreux enfants et adultes de sortir de ce calvaire et de quitter les centres de détention atroces dans lesquels ils sont actuellement détenus arbitrairement en Libye. Les gouvernements européens qui ont fermé la route de la Méditerranée centrale et donc abandonné des milliers de personnes prises en piège, au piège en Libye, ne doivent pas perdre de temps. Nous pourrions aider à sauver des dizaines d'autres sagales de père et de mère. Donc un très bon article, très long effectivement. Je l'ai lu peut-être un peu très passionné. Et peut-être des fois un peu écorché, mais ça ne fait que refléter tous les documentaires, toutes les situations aussi. On explique toujours qu'il y a un abandon de l'Europe par rapport aux migrants qui viennent parce qu'ils sauvent leur vie et non pour juste coloniser. Non, mais bon, au bout d'un moment, quand tu vois ce qui se passe à Ouistreham, mais ce qui se passe dans le monde entier.
C'est clair.
Donc un peu de dignité humaine et de respect pour les gens. Voilà, ce petit article était important. Merci Matteo De Bellis.
Je vais faire un petit clin d'œil à Claire Lys qui n'est pas là ce soir, mais comme elle dit habituellement, ça, tout ça, ça fout les miquettes.
Voilà.
François, je crois que tu avais d'autres informations par rapport aux droits des femmes.
Oui, j'avais aussi à vous signaler le cas de ce qui se passe en France face au risque d'excision. Des parents africains demandent l'asile en France pour leur fillette. Je ne veux pas que ma fille vive ce que j'ai vécu. Excisée à l'âge de 6 ans par sa tante en Côte d'Ivoire, Aminata est venue se faire examiner avec son bébé de 6 mois à l'hôpital de l'Hôtel Dieu au cœur de Paris. Une étape cruciale dans sa demande d'asile. Comme elle, des centaines de parents étrangers en situation irrégulière réclament chaque année le statut de réfugié pour leur fillette, invoquant un risque de mutilation sexuelle en cas de retour dans leur pays d'origine, principalement en Afrique de l'Ouest. Quelques 7500 enfants sont ainsi déjà placés sous l'égide de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFRA. Pour l'instruction des dossiers, l'organisme demande un certificat médical attestant de l'intégrité physique de l'enfant réalisé dans une unité médico-judiciaire. Celle de l'Hôtel Dieu vient de mettre en place une consultation dédiée grâce à une convention signée en novembre entre l'assistance publique, hôpitaux de Paris et l'OFPRA. Assise à côté de son conjoint, son nourrisson dans les bras, un bandeau couvrant ses yeux, Aminata, 27 ans, répond timidement aux questions posées d'une voix douce par le médecin légiste Céline Deguette, en binôme avec une infirmière. Elle est arrivée en France en 2015 pour fuir un mariage forcé. Son mari a rejoint l'Hexagone en 2016, mais vient de la même ethnie et du même village dans le nord de la Côte d'Ivoire, où l'excision est interdite depuis 1998, mais où les traditions et les pressions sociales et familiales persistent. On nous dit que pour que notre fille soit acceptée, il faut qu'elle soit propre. Moi, je suis contre l'excision, explique le jeune père. Ils font ça dans la forêt, avec le même couteau de génération en génération. Vous imaginez ? S'indigne-t-il, pointant le risque de maladie ou d'hémorragie mortelle. Mon oncle ne veut plus me parler, il dit que c'est une malédiction. Vient le moment de l'examen médical. C'est l'occasion d'informer la patiente sur les possibilités de reconstruction chirurgicale, de la rassurer, de faire de la prévention. D'après Sophie Pegliasto de l'OFPRA, les demandes d'asile liées au risque d'excision ont fortement augmenté à partir de 2008, aidées par la jurisprudence, l'évolution du droit et le bouche à oreille chez des familles parfois installées en France depuis plusieurs années dans une situation de précarité. L'OFPRA a alors recentré sa protection sur l'enfant, désormais seul détenteur du statut de réfugié, ses parents bénéficiant quant à eux d'un titre de séjour, puis l'OFPRA a œuvré pour un dispositif plus sécurisé. Voilà.
Il y a une campagne qui a été faite par Amnesty depuis il y a quelques années par rapport justement aux pratiques d'excision en Afrique, avec certains résultats au niveau des législations. Le problème, c'est que maintenant, les législations qui ont été votées passent dans les mœurs, si on peut dire. L'interdiction d'excision passe dans les mœurs, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'avais lu un article il y a quelques temps aussi dans la chronique d'Amnesty sur une coopération entre Amnesty et des ONG locales en Afrique pour essayer de faire comprendre, effectivement, d'aller au-delà, de vaincre les coutumes qui faisaient que, effectivement, on considérait que l'excision était quelque chose d'inévitable pour les femmes. C'est une mutilation intolérable, une excision, ça c'est clair. Donc on continuera à agir aussi. Et c'est Sabine qui avait une autre information, toujours sur les droits des femmes, à vous donner.
Oui, alors deux petits trucs, dont un en Inde, où il y a les atteintes à l'honneur familial, qui c'est insupportable, ça continue. Pas seulement les... Alors, il y a 100 viols ont été signalés en 2016, donc par jour en Inde. Donc, on imagine aujourd'hui ce que ça donne. Et en même temps, il y a encore toute une manière de vivre. Une jeune fille de 16 ans, une petite indienne de 16 ans, a été démembrée, passée à l'acide. Le corps a été retrouvé dans les environs de Gaïa, dans l'est de l'Inde, pour être partie le week-end avec son petit copain. Donc, atteinte à l'honneur familial insupportable pour les proches de la jeune fille, qui ont donc fait appel à un boucher de leurs amis pour laver l'affront. Et chaque année, plusieurs dizaines de crimes d'honneur sont officiellement enregistrés en Inde. Donc le combat des femmes, le droit des femmes, c'est pas, ça continue, c'est pas fini, c'est à travers le monde, ça s'arrange pas. En Belgique, il y a une nouvelle expérience, parce que il y a de plus en plus de difficultés pour aller déposer plainte. Et à Bruxelles, les victimes peuvent déposer plainte à l'hôpital maintenant. Les plaintes pour viol ont augmenté de 17% et celles pour agression sexuelle ont bondi d'environ 20%, rapporte le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Et ils mettent en avant le contexte de libération de la parole et de prise de conscience collective des violences faites aux femmes, née de l'affaire Weinstein, qui a déclaré en octobre 2017, et du mouvement MeToo qui s'en est suivi. Pour faciliter le dépôt de plainte, le CHU de Bruxelles a même ouvert un mini-commissariat dans ses murs. Un exemple à suivre en France. Ça permet de dormir, de récupérer. Après leur viol, l'infirmière suggère le repos, le temps que les policiers arrivent. Il y a toute la partie visite médicale et il y a le dépôt de plainte. Et puis bon, il y a moins d'agressions. Enfin, les gens ne parlent plus. Ils sont encore dans l'angoisse et pourquoi pas, avec des gens qui sont formés, qui sont à l'écoute. Donc, à suivre. Et pourquoi pas mettre des petits... Je pense que ce serait pas mal. C'est plus humain qu'un commissariat. Oui. À ce niveau-là.
Tout à fait. Ça me rappelle... Je regarde Vincent parce qu'elle était présente à l'émission. Ça me rappelle ce qu'ont dit les femmes de la pause à la dernière émission aussi pour les femmes victimes de violences qui venaient les voir ici à Évreux, puisque c'est l'activité de la pause, c'est de recueillir ces femmes-là et de les aider. Et bon, encore une fois, on vous renvoie pour réécouter l'émission sur Fréquence Droits Humains, la dernière émission, et leur témoignage était tout à fait éloquent par rapport à ça. Donc c'est vrai, comme tu disais, ça s'arrange pas, Sabine. Effectivement, quand on apprend ce genre d'informations, on est toujours écœuré, quoi. C'est clair, c'est normal.
Mais c'est dans tous les pays, là.
Mais en même temps, c'est
même au Portugal, où ça s'était calmé, ça augmente les agressions.
Mais en même temps, c'est une incitation à continuer nos actions, nos combats, etc. Parce que, je veux dire, voilà, il faut toujours recommencer, pour effectivement essayer de faire que l'intolérable disparaisse. Et je crois que...
J'ai une bonne nouvelle.
Oui, j'allais dire, quand l'intolérable disparaît, il y a Françoise qui a des bonnes nouvelles, donc ça tombe bien.
Ça ne va pas durer.
Alors, le prix Simone de Beauvoir remis à une salvadorienne pour son combat pour le droit à l'avortement. Le prix Simone de Beauvoir 2019 pour la liberté des femmes sera remis à la militante salvadorienne Sara Garcia Gross, qui lutte dans son pays et dans la région d'Amérique centrale pour que soit reconnu le droit à l'avortement. La distinction, qui sera remise à la Maison de l'Amérique latine à Paris, a été créée en 2008 à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de l'auteur du deuxième sexe, afin de contribuer à mobiliser la solidarité internationale, réaffirmer le droit des femmes dans le monde, garantir la protection de celles et de ceux qui luttent aujourd'hui au risque de leur vie, et défendre à leur côté les idéaux d'égalité et de paix. Il avait été attribué par le passé à la militante pakistanaise et prix Nobel de la paix Malala Yousafzai, à la mairie de Lampedusa, Gyus Nicolaïni, pour son action en faveur des migrants naufragés de la Méditerranée, ou encore à l'écrivaine et journaliste Asli Erdogan, menacé d'une peine de prison à vie pour ses articles dans la presse turque. Éducatrice universitaire, Sarah Garcia Gross est membre de l'Association citoyenne pour la dépénalisation de l'avortement, qui a présenté en 2016 un projet de loi pour dépénaliser l'avortement en cas de viol, de situation de traite des femmes, de danger pour la vie de la femme enceinte et de malformation grave du fœtus. Sarah Garcia Gross n'hésite pas à arpenter les plateaux de télévision de son pays malgré les menaces de plaintes par les secteurs conservateurs pour apologie du crime. Elle intervient également lors de procès de femmes poursuivies pour avortement, fait du lobbying auprès de législateurs et participe aux mobilisations citoyennes qui ont notamment permis la libération le 15 février 2018 de Théodora Vasquez, condamnée à 30 ans de prison en 2008 pour une fausse couche considérée comme un homicide aggravé. Voilà.
Alors, une mauvaise nouvelle. En réaction, aux Émirats Arabes Unis, enfin mauvaise nouvelle par rapport à oui. ton prix, un prix pour l'égalité femmes-hommes a été décerné seulement à des hommes. Voilà, 4 heureux lauréats pour la deuxième édition et que des hommes. Hein, au niveau de l'égalité homme-femme, c'est pas mal.
C'est pas terrible.
Hein bon. Bon, ils ont été un petit peu tournés en ridicule avec des tweets. Tels que, waouh, quelle ode à la diversité.
Dans quel pays ça a été fait ça?
Aux Émirats Arabes Unis. Oui. On ne citera pas le nom de ces gagnants. J'ai oui. pas envie de les citer.
Bon, on écoute notre deuxième pause musicale.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Raise the dead.
Maintenant, la parole à Françoise.
Voilà, et ben je vais vous indiquer une action urgente à faire, qui est importante. En Iran, une défenseure des droits des femmes encourt 34 ans de prison et 148 coups de fouet. Nasrim Sotoudeh, avocate iranienne spécialisée des droits humains, incarcérée, encourt jusqu'à 34 ans de prison et 148 coups de fouet, à l'issue de deux procès manifestement iniques. Les accusations portées contre elle découlent uniquement de son travail pacifique en faveur des droits humains. Elle a notamment défendu des femmes ayant contesté les lois abusives obligeant à porter le voile en Iran et s'occupe ouvertement de la peine de et s'oppose ouvertement à la peine de mort. Voilà, alors si vous souhaitez faire cette action qui est vraiment importante, vous nous mettez un mail en nous indiquant vos coordonnées. Notre mail, c'est amnesty.evreux@gmail.com et on vous enverra le modèle de lettre à faire, etc. Et aux personnes, aux autorités à lesquelles vous devez l'envoyer. Voilà.
Et c'est important, les actions urgentes, on vous en parle assez régulièrement dans les émissions, parce que dans les bonnes nouvelles qu'on vous donne, il y en a très souvent des bonnes nouvelles qui sont dues aux, ce sont les conséquences des actions urgentes que l'on mène. Donc c'est important. Voilà. Si vous avez quelques minutes, vous nous envoyez votre adresse mail par mail, à amnesty.evreux@gmail.com, et on vous renvoie l'information avec le modèle de lettre.
Est-ce qu'on les trouve sur le site internet ?
Les actions urgentes, on trouve les pétitions sur le site d'Amnesty.
D'accord.
Et les actions urgentes, c'est une autre forme d'action qui n'est pas sur le site. Bien, je vais reprendre la parole juste 2-3 minutes pour vous donner les infos locales. Mais juste avant, je voulais quand même vous donner une information qui est aussi parue dans la dernière chronique, la chronique d'Amnesty France, c'est mensuelle. Et donc qui est largement consacré aux droits des femmes, mais là ça concerne les droits d'une autre partie de la population dont les droits sont extrêmement bafoués. Vous en avez déjà parlé, c'est les droits des minorités sexuelles et plus particulièrement des homosexuels, et ça se passe en Tchétchénie. Les homosexuels sont de nouveau pris pour cible en Tchétchénie. Le 28 décembre 2018, le Russian LGBT Network a révélé qu'une quarantaine de personnes LGBT, donc les minorités sexuelles et homosexuelles, avaient été enlevées et placées en détention. Certains ont vu leur passeport détruit pour les empêcher de quitter le pays. Au moins deux sont mortes. De plus, les autorités auraient contraint des familles des homosexuels à commettre des crimes d'honneur et à en fournir la preuve. Ça me rappelle ce que disait Sabine tout à l'heure. Donc on oblige les gens à tuer les homosexuels et à fournir la preuve. Déjà, il y a 2 ans, des centaines d'homosexuels avaient été victimes de tortures et parfois d'assassinats, sans que les responsables ne soient jugés. Le président tchétchène avait alors déclaré cynique « Les homosexuels sont le diable, il faut s'en débarrasser, ce ne sont pas des hommes ». Le ton était donné. Si Ramzan Kadyrov, c'est le nom du président tchétchène, peut laisser libre cours à son homophobie, c'est sans doute en partie parce que son grand frère russe le protège. Bien que signataire du pacte international pour les droits civils et politiques, La Russie a en effet refusé de répondre et de coopérer aux demandes d'enquête sur la purge homophobe. Un refus dénoncé par l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe en décembre dernier. Choquante, l'attitude de Moscou n'est pas très étonnante. La Russie a elle-même accentué la répression des personnes LGBT, notamment via l'adoption d'une loi pénalisant la propagande homosexuelle devant les mineurs en 2013. La communauté internationale peut jouer un rôle important et faire pression sur les élites politiques afin qu'elles reconnaissent leurs crimes et prennent des mesures efficaces pour traduire les responsables présumés en justice, rappelle Natalia Pirutskaya, chercheuse sur la Russie à Amnesty International. Donc voilà. Et pour faire plaisir à Sabine, je vais dire que c'est encore une exaction qui est coproduite par notre ami...
Ton ami.
Poutine. Une de plus. Bien. On a quelques infos locales à vous donner pour terminer l'émission. À moins que ces dames aient encore une information par rapport aux droits des femmes, puisque c'est une émission consacrée aux droits des femmes.
Allez, un petit CD.
Ah, voilà. Yamina qui voulait encore vous dire quelque chose.
Super chanteuse, Sarah McCoy, qui est passée en 2018 à La Traverse. Et elle est à l'honneur dans la chronique du mois de mars. Alors, son CD, son premier CD, qui s'appelle Blood Siren, est sorti. Cette chanteuse pianiste de grand chemin qui vécut longtemps de squat en caravane entre la Californie et la New Orleans sort son premier album. Blues écorché, puissance vocale, Sarah McCoy, que l'on a comparée à Janis Joplin et Nina Simone, puise dans le gospel et les tourments de sa propre existence pour nous offrir 13 mélodies ensorcelantes. Donc c'est chez l'éditeur Blue Note Records. Elle est en tournée le 15 mars à Agen, le 22 à Auxerre, le 29 à Massy, le 6 avril à Rodillan, je crois. En vieillissant, j'ai des problèmes de vue. Alors... Enfin, c'est dans la chronique. N'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voulez plus d'informations ou d'aller sur amnesty.fr. Et on l'a vu avec Renan. Elle est magnifique. J'en ai les miquettes, comme dirait Clarisse.
Ah non, j'en ai les miquettes, c'était par rapport à ce qu'il a hérissé. Donc là, si ça t'a plu, ça va pas.
Ah non, ça m'a plu, alors...
Bon, comme on a encore une minute ou deux avant qu'on vous donne les infos locales, on va en profiter. J'avais noté une autre information aussi dans la chronique, alors qui ne parle pas des droits des femmes, mais qui parle de la vente d'armes au Yémen. Vous savez sûrement que le Yémen est en guerre civile et que donc la communauté européenne est en ligne de mire par rapport aux ONG, dont Amnesty International, parce que la communauté européenne vend des armes aux différents groupes qui se livrent à la guerre civile là-bas. Ce qui est interdit normalement par le droit international et le traité sur le commerce des armes. Donc voilà ce que dit Amnesty. En analysant plusieurs photos et vidéos, Amnesty a constaté que des équipements militaires vendus par des pays occidentaux aux Émirats Arabes Unis avaient été transférés à des milices yéménites. La brigade Al-Izam, les forces d'élite des Chabois et les brigades des Géants sont accusées de crimes de guerre et d'autres graves exactions. Ce sont des gens qui se livrent à la guerre là-bas. Certaines gèrent des prisons secrètes où elles utilisent les disparitions forcées, pratiquent la torture, les humiliations sexuelles et d'autres mauvais traitements. Parmi leurs armements figurent des véhicules blindés américains, des mitrailleuses légères belges, des mitrailleuses serbes et le mortier singapourien à grave machin chose, bon je ne suis pas expert en armement, monté sur un véhicule blindé. En fournissant des armes aux Émirats Arabes Unis, les États occidentaux violent manifestement l'interdiction de transférer des armes utilisées pour commettre des crimes de guerre, stipulées à la fois dans le traité sur le commerce des armes, la position commune PESC de l'Union européenne et un certain nombre de législations nationales. Alors Amnesty conclut en disant seuls quelques rares pays, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Norvège, et il faut les encourager, ont pris la bonne décision en cessant de convoyer des armes vers le conflit dévastateur que traverse le Yémen. Les autres doivent suivre leur exemple, ou bien ils partageront la responsabilité des ravages que ces milliards de dollars de transfert d'armes causent sur les civils au Yémen. Voilà. Donc voilà, on n'est pas très fiers non plus de ce que fait l'Europe par rapport à cette situation de vente d'armes. Et on va en venir enfin effectivement à nos infos locales. Donc nous, on se retrouve, notre prochain rendez-vous, C'est le samedi 23, après-midi, on va tenir un stand justement sur les droits des femmes. Et ces trois femmes dont vous a parlé Sabine, les trois femmes qui sont en Arabie Saoudite, qui sont actuellement en prison parce qu'elles ont simplement défendu le droit de conduire pour les femmes. Je rappelle toujours, parce que moi ça m'a toujours sidéré ça, quand on parle des droits des femmes en Arabie Saoudite, qu'en Arabie Saoudite, les femmes n'ont toujours pas le droit de faire du vélo. Voilà. Et c'est pas anecdotique, hein, c'est vrai. Et donc, on va tenir un stand principalement pour défendre les...
Il n'y a pas le permis vélo ?
Oui, c'est ça, il n'y a pas le permis vélo. Et donc, pour défendre ces trois femmes, donc, principalement, ce sera probablement, je pense, au miroir d'eau, mais ce sera en centre-ville, vous pouvez nous retrouver facilement, le samedi 23, donc après-midi, pour nous retrouver, nous, pour la défense de ces droits, des droits de ces femmes. Et puis après, il y a une autre actualité locale, alors qui n'est pas directement à Évreux, mais c'est pas loin, c'est à Rouen. Le mardi 26, de 9h à 17h30, donc toute la journée, il y a le troisième forum des droits humains organisé par Amnesty Haute-Normandie, l'ensemble des groupes, et qui sera consacré cette année à la solidarité contre l'exclusion, avec pas mal d'intervenants. Bon, on va pas tous vous les citer, hein, mais parmi les intervenants, il y a Geneviève Garrigos, qui est l'ancienne présidente d'Amnesty France, qui va parler du thème « La solidarité, une valeur universelle ». Donc on vous rappelle ce forum, l'entrée est gratuite, et donc vous pouvez venir sans problème, hein, c'est le mardi 26 de 9h à 17h30, et le lieu, c'est au Conseil Général de Normandie, qui se trouve à 5 rue Robert Schuman à Rouen. Donc mardi 26. Et pour finir, notre prochaine émission de radio, bah c'est le même jour, c'est aussi le mardi 26, sur l'antenne de Principe Actif, de 19h à 20h, donc l'émission, la deuxième émission bimensuelle d'Amnesty Évreux. Voilà, on va se quitter en laissant la place.
Et moi, oui. Je vous invite à aller voir Damien de Changer le Monde.
C'est vrai, on avait dit, j'allais
tout oublier. De Xavier de Choudens, qui est un film magnifique, plein d'humanité. C'est un appel au délit de solidarité. Allez-y, c'est vraiment un super film. Voilà. Il sort à Évreux en ce moment.
Quand t'appelles un appel au délit de solidarité, ça veut dire quoi ?
Tu vas le voir et puis tu verras.
Bon, d'accord.
Et
ça,
voilà.
Ça incite les gens
et t'emmènes les amis.
Ça incite les gens à être solidaires, c'est ce que tu
absolument,
veux dire.
Voilà. Absolument.
Ok. Bon, on est bien d'accord.
Allez-y, c'est un très beau film.
Bon, et bien voilà. Merci à tous les auditeurs. Et puis rendez-vous dans 15 jours sur l'antenne de Principe Actif. On laisse la place au laboratoire et à Manu.
Au revoir.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués